L'Alsace a signalé l'affaire samedi dernier, mais à la veille de l'hommage qui sera rendu dans les collèges et les lycées à Samuel Paty, le sujet revient sur les sites de presse en ligne. Mardi 4 octobre, vers 17h50, à Thann, en Alsace, un professeur du lycée Scherer-Kestner a subi des menaces de mort de la part de l'oncle d'une de ses élèves. Le nom de Samuel Paty aurait été lancé par l'agresseur. L'oncle a été placé en garde à vue et sera poursuivi, ainsi que l'adolescente. Cette agression verbale devant témoin a été déclenchée par une discussion entre un professeur, le professeur, et une élève après le cours. Selon le professeur, la jeune fille a tenu des propos tenant à justifier les attentats de Charlie Hebdo. Peu de temps après, sa mère est venue la chercher, puis est revenue avec l'oncle, qui, au dire des témoins de la scène, aurait eu des paroles virulentes sur l'évocation de la religion en cours. L'oncle s'est alors adressé au professeur en évoquant ce qui est arrivé à Samuel Paty, ce qui a été qualifié, selon les témoins et l'enseignant, de menace de mort. Des faits qui interviennent à la veille de l'hommage rendu dans les établissements à Samuel Paty.
Et justement, David, des établissements qui auront le choix de l'hommage.
Oui, un hommage à la carte, précise ce matin le Huffington Post. Soit une minute de silence, qu'il faudra faire respecter. Soit un moment d'échange, qu'il faudra animer et encadrer. Soit, plus simple pour les enseignants, ce que l'éducation nationale appelle une séquence pédagogique. Je déduis de cet hommage à choix multiples que l'éducation nationale s'estime incapable d'imposer à des collégiens et lycéens une minute de silence à la mémoire de Samuel Paty. Quant au ministre Papendiaï, il rappelle, le Huffington Post rappelle qu'il a réussi, lui, à faire applaudir Samuel Paty hier en faisant lever l'ensemble de la représentation nationale. C'est bien la seule fois où les députés ont fait consensus dans l'hémicycle cette semaine, si l'on en croit les échos qui ce matin titrent « Budget ». Les débats virent au chaos. Juste un exemple, cité par les Échos. Les oppositions ont retoqué hier l'article liminaire du projet de loi de finances qui fixe le déficit à 5%. 5% de déficit, c'est énorme. Eh bien, la droite et l'extrême droite ont voté contre parce que 5%, cela veut dire des économies insuffisantes. Et la NUPES a voté contre aussi parce que le gouvernement freine trop la dépense publique. Autant dire que 5% de déficit public, ça ne veut pas dire la même chose pour la droite et pour la gauche.
Et puis du chaos, donc, à l'Assemblée, on passe au blocage.
Tous vos journaux reviennent ce matin sur le blocage des stations-service par les chimistes de la CGT. Un sujet qui occulte largement l'intervention d'hier à la télévision du président de la République sur la politique étrangère. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des éditorialistes et ils s'en donnent à cœur joie ce matin dans les journaux. Dans les Échos, Cécile Cornudet observe la gauche se refaire la cerise grâce à cette grève qui occulte sa rentrée catastrophique sur fond d'affaires de harcèlement. Dans le Figaro, Vincent Trémolet-Villers conspue la tyrannie des minorités et ses grévistes qualifiés de serial bloqueurs. Et il allume aussi Sandrine Rousseau qui espère la grève générale. Même mécanique victimaire, écrit-il, même mépris des gens ordinaires. À la une de l'opinion, Olivier Auguste soulève le paradoxe de cette alliance de la carpe syndicale, du lièvre et les filles et du lapin écolo. Pas folle la guêpe, aucun des tracts de la CGT Industrie Chimique ni des syndicats de Total Énergie ne réclame une taxation des super profits. Pas du tout. Les revendications sont d'abord salariales. Mieux, les grévistes réclament des investissements qui préparent l'avenir. Au fond, les grévistes l'ont parfaitement compris, s'amuse Olivier Auguste. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord l'emploi. Mieux, une société se porte, plus les salariés peuvent espérer en recueillir les fruits. À condition que les employeurs n'aient pas un oursin dans la poche. Lisez la newsletter Time to Sign Off, qui paraît chaque soir en fin de journée via Internet. Elle citait hier l'économiste Patrick Artus. Que dit-il, Patrick Artus ? Qu'en Europe, l'Europe de l'OCDE, les salaires ont progressé de 23% entre 1990 et 2019, quand la productivité du travail a progressé, elle, de 49%. En clair, les salariés ont reçu la moitié des gains auxquels ils pouvaient prétendre. De quoi rester couché. Je reviens à l'édito de l'opinion. Les cégétistes de Total pensent d'abord à eux. Les pénuries d'essence entravent l'activité, conclut Olivier Auguste. Celle des artisans, des ambulanciers, des ouvriers du bâtiment. Et dans une conjoncture fragile, la fameuse grève préventive des uns fragilise l'emploi de beaucoup d'autres.
Et à lire dans des tribunes sur les hommes et les femmes.
D'abord, la condition animale. Ça va pas très fort et c'est rapporté par la newsletter matinale du Monde. Selon le Fonds pour la Nature, les populations de vertébrés ont décliné de 69% en moins de 50 ans. Enquête à lire aussi dans Libération. Vertébrés toujours, les vaches. Les vaches qui pètent. C'est pas bon pour le climat, les émissions. émissions de pets de vaches. Alors la Nouvelle-Zélande envisage de taxer ces pets de vaches, nous explique La France Agricole, c'est un site internet. Après les vertébrés et les vaches qui pètent, les humains donc, à lire dans Libération la énième tribune gémissante sur les femmes. Ça commence comme ça. « C'est quoi être une femme? C'est mourir !» écrit l'essayiste Tania de Montaigne, qui n'a pas peur d'assigner son genre à celui d'éternelle victime. Si ces tribunes avaient la vertu d'éveiller les consciences des hommes qui les maltraitent, elles auraient au moins ce mérite, mais non. Dans le Figaro, c'est l'inverse. Il faut lire le résumé du livre qui fait sensation aux États-Unis. Ça s'appelle « Des hommes et des garçons ». Un essai signé de l'écrivain Richard Reeves sur la condition masculine américaine. Le chroniqueur du Figaro, Édouard Tétrault, l'a lu. Conclusion, c'est le déclin de l'empire masculin. Et les hommes partent en quenouille. Taux de suicide en hausse, précarisation en hausse. 15% de ces hommes déclarent n'avoir pas d'amis. Ils étaient 3% il y a 30 ans. Un homme, écrit l'essayiste, entré sur le marché du travail en 83, a 10% de revenus en moins que la génération masculine précédente. Quand la femme a gagné, c'est un rattrapage, 33% de plus. Le plus grand décalage avec les femmes réside dans l'accès à l'éducation et la réussite scolaire. Les femmes sont plus nombreuses à l'école et réussissent mieux. Conclusion de l'auteur, à rebours de la tendance actuelle, la promotion des femmes ne sera durable que si elle ne se fait pas au détriment de la condition masculine. Il faut proposer une vision positive de la masculinité dans une société post-féministe. Pour le post-féminisme, il va falloir patienter. Quant à la vision positive de la masculinité, à long terme, on sera tous morts.
Merci David. Il est 8h41. Pour un quart d'heure, nous avons rendez-vous avec Christian Macarian et Franz-Olivier Gisbert. Il n'est pas impossible...